concernés, nous ne demandons qu'une chose, la justice. Et jamais la justice n'est venue de la violence. Depuis une semaine, des actes inacceptables ont touché plusieurs centaines de communes. Les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et des élus ont été pris pour cible. Des mairies, des écoles, des équipements publics ont été vandalisés, parfois incendiés. Des commerces ont été pillés. Face à cette situation, nous avons tout mis en œuvre pour rétablir l'ordre républicain autour d'un mot d'ordre, le refus de l'impunité. C'est ce que nous demandent les habitants des quartiers touchés. Ils sont les premières victimes de ces violences et les près de 6 millions d'habitants des quartiers n'ont rien à voir avec quelques milliers de délinquants. Depuis le début des violences, près de 4000 personnes ont été interpellées. Le garde des Sceaux a demandé au procureur une réponse rapide, ferme et systématique pour tous les auteurs. Et hier soir, au total, près de 1000 personnes avaient déjà été présentées à la justice et plus de 350 sont déjà en détention. La réponse pénale a été forte, avec notamment des peines de prison ferme, avec des incarcérations. J'ajoute que le garde des Sceaux vient de diffuser une circulaire sur le traitement des infractions commises par les mineurs et les conditions d'engagement de la responsabilité de leurs parents. Monsieur le Président Maluret, évidemment, dans cette crise, les réseaux sociaux jouent un rôle important. Ils facilitent parfois l'organisation des violences et ont souvent une responsabilité dans la désinhibition des jeunes. C'est pourquoi le gouvernement a demandé à l'ensemble des plateformes de respecter leurs obligations de retrait des contenus illicites et d'être vigilants sur certaines de leurs fonctionnalités, comme la géolocalisation. Par ailleurs, nous veillons à ce que les titulaires des comptes ayant participé à des violences soient identifiés et poursuivis. D'autres réponses de plus long terme devront être apportées. C'est notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques et du projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique examiné en ce moment même au Sénat. Je vous remercie.
La parole est maintenant au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains.
Vous avez raison, Madame la Première ministre, une mort tragique ne peut pas servir de prétexte. Et ces nuits de violence, ces nuits de chaos nous imposent une double exigence, une double réponse. La première, c'est pour maintenant que la République serre les rangs. Et ensuite, pour demain, que le gouvernement ouvre grand les yeux. Serrer les rangs parce que, dans la mesure où l'ordre public n'est pas revenu, et tant qu'il ne sera pas réétabli, la seule attitude républicaine, responsable, c'est de serrer les rangs. C'est de soutenir sans réserve les forces de l'ordre, policiers, nationaux, municipaux, les sapeurs-pompiers et les élus, bien entendu. Mais c'est aussi de laisser le gouvernement travailler et le ministre de l'Intérieur pour établir l'ordre public, l'ordre républicain en France. Et nous sommes d'accord, comme vous, madame, je condamne aussi ces élus de l'extrême-gauche qui ont choisi leur camp, ce camp qui n'est pas celui de la République, ce camp qui est celui des émeutiers, ce sont des professionnels de l'excuse sociale. Mais en l'occurrence, ils n'ont strictement aucune excuse. Et puis pour l'avenir, l'important pour le gouvernement, ce sera d'ouvrir grand les yeux, d'établir le bon diagnostic, d'appeler un chat un chat. Un émeutier, ça n'est pas un déshérité. Un délinquant, ça n'est pas une victime. Alors, Madame la Première ministre, deux questions. La première, quelles sont pour vous les causes de ces émeutes? La seconde, quels sont les remèdes? Sachant que, et vous le savez très bien, la France tranquille n'accepte plus de passer à la caisse pour des minorités qui saccagent leur quartier.
La parole est à Madame la Première ministre.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Bruno Retailleau. Face aux violences inexcusables qui ont touché plusieurs centaines de communes depuis une semaine, notre premier objectif a été le retour de l'ordre républicain. Nous avons mis en place des moyens exceptionnels et grâce à la mobilisation rapide de l'État, grâce à l'action et au courage des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, grâce à la mobilisation des élus locaux, notamment des maires, Les violences connaissent depuis quelques jours une très forte décrue et la situation revient progressivement à la normale. Face à la crise, nous avions un devoir d'unité et je veux saluer, Monsieur le Président, l'attitude républicaine de votre famille politique pour dénoncer les violences et appeler au calme. Bien sûr, Monsieur le Président Retailleau, au-delà des réponses d'urgence, nous devons nous pencher sur les causes profondes de cette crise. Sans procrastiner, il faudra prendre la mesure de la complexité de la réalité. Un tiers des communes qui ont connu des violences n'ont pas de quartier politique de la ville. Et la moitié des villes avec des grands ensembles où sont menées des opérations lourdes de rénovation urbaine n'ont pas connu de violence. Monsieur le Président Retailleau, la quasi-totalité des près de 6 millions d'habitants des quartiers qui sont les premières victimes de ces violences expriment leur incompréhension et leur colère. J'ai pu le mesurer moi-même à Garges-lès-Gonesse, à Évry ou à Beson. Ils aspirent à la sécurité, ils aspirent à des services publics de qualité, ils aspirent à être des acteurs de la République sans distinction d'origine, comme le garantit l'article 1er de notre Constitution. Monsieur le Président, ensemble, nous devrons nous interroger sur le respect de l'autorité, sur l'exercice de l'autorité parentale, sur l'influence des réseaux sociaux, sur la désinhibition face à la violence ou encore sur l'efficacité de nos politiques publiques. Nous mènerons ces réflexions sans a priori, sans excès ni caricature, sans tabou ni bouc émissaire. Nous le ferons avec tous les élus qui veulent agir et partagent les valeurs de la République. C'est ensemble que nous trouverons des solutions. Je vous remercie.
Monsieur le Président.
Oui, Madame la Ministre, Madame la Première Ministre, le temps nous est compté et les causes, nous les connaissons. C'est la somme de tous nos renoncements. C'est la somme de tous les laisser-aller. La faillite de l'école, la faillite de l'autorité parentale, le chaos migratoire, bien sûr, le chaos migratoire, et aussi une réponse pénale qui, pour les mineurs, est souvent inadaptée. Alors, Madame la Première Ministre, faites la politique du courage. Ayez le courage de traiter les causes, et non pas seulement les conséquences de ces causes par la politique du carnet de chèques. Et alors, si vous avez ce courage, nous serons à vos côtés, parce que sans ce courage, les violences reviendront, et sans ce courage, la France rebrûlera.
Merci. La parole est à notre collègue Amel Gacquer pour le groupe.
Voilà la réponse à la réponse de Bruno Retailleau à Elisabeth Borne, assez lyrique sur cette dernière intervention. La France tranquille n'accepte plus de passer à la caisse, c'est ce qu'il disait en substance à la Première Ministre. Alors on ne sait pas si elle a vraiment répondu à la question, Élodie Huchard, à la question initiale, mais elle parle quand même de sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir la responsabilité parentale. C'est vrai que de toutes parts, enfin dans toutes les formations politiques aujourd'hui, on réfléchit aux moyens de, à la fois de responsabiliser les parents, mais aussi de les faire payer pour leurs enfants lorsque cela est possible. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées, on va les dérouler dans leur ensemble, mais il y a à la fois les propositions émanant de sénateurs LR, qui espèrent d'ailleurs que des Renaissances vont les rejoindre dans cette intention, et puis il y a aussi l'exécutif qui réfléchit de son côté.
Oui, en fait, si on caricature, l'exécutif réfléchit et du côté des LR, comme c'est un sujet forcément qui travaille depuis plus longtemps, ils ont amené les solutions. Ce qu'expliquait ce matin Olivier Véran à la fin du Conseil des ministres, c'est que le gouvernement veut procéder en deux étapes. Pour l'instant, c'est vraiment un temps de réflexion. On essaye de s'interroger, dit-il, notamment au modèle familial. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes à agir de telle manière? Qu'est-ce qui fait que des parents ne condamnent pas que des enfants de 13 ans mettent le feu à des bâtiments? Dans un deuxième temps, il y aura des solutions concrètes. Mais effectivement, le gouvernement est pressé par l'opposition parce que, vous le disiez, du côté d'Éric Ciotti, des sénateurs ou encore de Valérie Pécresse ce matin, en revanche, il y a des solutions déjà qui sont mises sur la table.
Alors, l'État qui prend à bras-le-corps cette question des émeutiers mineurs, en mettant donc les parents face à leurs responsabilités, en tirant aussi le bilan des nuits explosives, voici ce qu'a déjà préannoncé Olivier Véran. C'était à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure.
Le soir du 4 juillet, près de 990 présentations immédiates dans les tribunaux en sortie de garde à vue, dont 480 comparutions immédiates étaient recensées. 366 personnes ont été incarcérées pour ces violences et dégradations. Un tiers des personnes interpellées étaient des mineurs. Et cette proportion était même de 54% la nuit de dimanche à lundi, ce qui témoigne de l'importance, j'y reviendrai, de la responsabilisation des parents dans ce contexte. Ainsi, les parents seront mis face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale pour, je le précise, ceux qui ne répondraient pas aux convocations dans les procédures mettant en cause leur enfant. Quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc, il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, et qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
Dans cette séquence de direct, j'ai omis de vous présenter les autres invités qui composent ce plateau cet après-midi. Bonjour Judith Vintraube, je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Yann Bastière, merci d'avoir à nouveau répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes délégué national d'unité SGP. Et puis Célia Barotte. Célia, on va s'appuyer sur les propos d'Olivier Véran à l'instant. Pourquoi on en appelle aux parents et pourquoi on pense à infliger des sanctions aux parents? Parce qu'on s'est rendu compte au fil des comparutions puis des condamnations qu'effectivement il y avait une quantité non négligeable de mineurs. Peut-être s'intéresser à leur profil et au type de condamnation dont ils ont écopé.
1124 mineurs qui ont été placés en garde à vue sur les 3625 au total. Alors les mineurs ne seront pas condamnés avant de nombreux mois puisque seuls les adultes peuvent être jugés en comparution immédiate. Les mineurs qui ont été interpellés seront jugés par une juridiction spécifique. En attendant leur procès, de nombreux mineurs sont placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir de chez eux la nuit ou de se rendre sur les lieux où ils ont commis leurs méfaits. S'il y a violation de contrôle judiciaire, ils seront placés en centre éducatif et en détention provisoire. Alors, on a plusieurs exemples, Nelly, concernant les mineurs qui ont été interpellés. Par exemple, à Saint-Prix, deux mineurs de 15 et 16 ans interpellés pour participation à un groupement formé en vue de préparer des violences contre les personnes ou des dégradations de biens. L'un a été remis au juge des enfants et reconvoqué le 20 septembre prochain. L'autre, convoqué devant un juge des enfants le 2 août prochain. On a aussi à Argenteuil l'interpellation de trois mineurs de 16 et 17 ans pour violence volontaire avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, avec guet-apens. Deux sont déférés et placés en détention provisoire. Le troisième remis à son civilement responsable et convoqué le 27 juillet. Un dernier exemple, par exemple, à Sarcelles, interpellation de trois mineurs âgés de 16 et 17 ans pour participation à guet-apens. L'un a reçu une convocation au 19 septembre prochain pour une réparation pénale. Les deux autres seront convoqués le 6 septembre prochain pour un avertissement pénal provisoire. Alors on espère que ces condamnations, ces décisions judiciaires permettront de restreindre et de limiter les prochaines tensions. Oui. Et pour l'instant, aucune réponse concernant la situation des mineurs en termes de justice.
Oui, c'est un peu l'idée, taper fort, comme dirait un Gérald Darmanin, je crois, pour pouvoir permettre de juguler un peu le degré de tension. Judith Vintraube, il y a beaucoup de choses sur la table. C'est vrai qu'on peut s'y perdre un peu parmi le lot de propositions. Évidemment, l'exécutif paraît un peu plus frileux que les propositions émanant des LR aujourd'hui. Eux qui insistent beaucoup sur la levée de l'excuse de minorité, alors que l'exécutif, on l'entend d'ailleurs à travers Olivier Véran, penche plus pour des amendes, des stages. Est-ce qu'à votre sens, ça va servir à quelque chose?
Je constate en tout cas que l'exécutif évolue par rapport à ses positions antérieures. Pour ne prendre que l'exemple d'Olivier Véran, je me souviens que quand Éric Ciotti, en 2010, avait fait adopter la mesure visant à suspendre les allocations familiales des parents d'enfants absentéistes, qui manquaient l'école à répétition, Véran avait dit « c'est absolument scandaleux ». Là, maintenant, il défend la mesure, c'est formidable. La seule mesure que je l'ai vue défendre jusqu'à présent dans ce domaine-là, c'était la suspension des allocations familiales aux familles les plus aisées. Donc là, on a une espèce de virage très important qu'il faut saluer. Ce qui me surprend, c'est que malgré toutes les déclarations pleines d'autorité et d'Emmanuel Macron devant les policiers à huis clos, comme le rapporte le Parisien...
Il n'a pas réitéré publiquement.
Il n'a pas réitéré publiquement et de tous les membres du gouvernement qui s'expriment sur le sujet. Je n'en vois aucun évoquer la possibilité d'utiliser l'article du Code pénal qui permet... de punir assez lourdement les parents d'enfants délinquants multirécidivistes en mettant en danger leurs enfants.
C'est le 1241 alinéa 4, mais je crois que c'est la proposition de Stéphane Lerudulier.
C'est le 727.
Ah ouais, il y en a plusieurs alors. Bon. On va pas recommencer comme avec la réforme des retraites.
Je l'ai noté quelque part, donc voilà, je vais vous le dire, c'est le L227-17.
D'accord, donc c'est prévu en effet.
Donc moi, un parent qui néglige son enfant est réputé le mettre en danger. Et effectivement, les scènes qu'on a vues, les enfants mettent les autres en danger, mais se mettent en danger également. Et ça, ça peut être puni jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Alors, ça existe, ça serait bien de l'appliquer.
Dans un instant, nous retournerons dans l'hémicycle du Sénat, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont trait à ça, afférent à cela. Yann Bastière, j'aimerais aussi avoir votre sentiment sur une expression qu'a employée Olivier Véran tout à l'heure en tant que flic. Vous me pardonnerez cette expression ?
J'accepte.
Oui, bon, on l'assume maintenant, hein. Policier, en tant que policier. Quand il dit, quand on se retrouve face à un gamin de 13 ou 14 ans qui est capable en responsabilité de tirer des mortiers sur des personnes adultes, comme s'il se mettait d'égal à égal, pour vous, c'est pas dingue, c'est pas fou de lever la minorité, c'est-à-dire qu'on peut les juger comme des adultes, ceux-là ?
On n'a pas l'arsenal juridique aujourd'hui pour les juger comme des adultes. On sait très bien, on voit qu'ils ne peuvent pas passer en comparution immédiate. On a ce code de la justice pénale des mineurs qui rentrera en vigueur en 2021 et qui n'a pas été assez loin dans nos nouveaux mineurs. Il faut les appeler comme ça.
Mais sur l'âge plancher de 16 ans, là, vous êtes quel est votre point de vue ?
Il faut certainement descendre. Nous n'avons plus les mêmes mineurs. Nous n'avons plus les mêmes mineurs fabrication personnelle, dans leur fabrication familiale. On n'a plus les mêmes. La violence, ils n'ont plus aucun filtre. Des 13-14 ans, vous venez de le dire.
On a même un enfant de 11 ans au Havre qui a été interpellé pour un incendie criminel. Ouais. Il était déjà connu des services de police. Donc on voit que l'âge
maintenant est devenu tout à fait relatif.
Je peux faire juste une remarque. Quand on regarde les jugements prononcés, on s'aperçoit que ce sont les juges qui n'utilisent pas la possibilité qui leur est donnée de ne pas se servir de l'excuse de minorité et qui ne vont jamais ou quasiment jamais au maximum des peines possibles.
Sauf dans le cas d'espèce. Pour une fois, on a appliqué...
C'est aussi une révolution.
Voilà, l'arsenal judiciaire à disposition.
Tout ça pour dire que supprimer l'excuse de minorité ou abaisser l'âge à partir duquel on ne peut plus l'utiliser, ça ne sert à rien si vous n'avez pas des juges convaincus de la nécessité de sévir.
Alors, je ne sais pas si on peut retourner peut-être au Sénat, parce que Gérard Larcher va donner la parole à Roger Karoutchi pour les LR.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, donc, la République, comme la démocratie, sont des régimes fragiles. Nous avons ici au Parlement voté des textes, souvent à votre demande, sur la sécurité, sur la justice. Vous préparez des textes sur l'immigration et l'intégration. Est-ce que vous avez le sentiment, avec tout ce qui se passe en ce moment, que ces textes suffisent pour conforter la démocratie et la République en France?
Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre Karoutchi. Je crois que, comme l'a dit la Première ministre dans la réponse à Bruno Retailleau, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours. Heureux ceux qui auraient des explications simples. 4000 interpellations, âge moyen 17 ans, un tiers de mineurs, moins de 10% de personnes de nationalité non française et 60%, monsieur le ministre, 60% de personnes inconnues des services de police. Même pas un fait. Même pas un usage de stupéfiants ou un refus d'obtempérer. Le contraire de la délinquance habituelle. Sur les 500 villes politiques de la ville, plus de 150 n'ont pas connu d'échauffourées. Et puis il y a une centaine de villes qui n'ont pas de quartier politique de la ville et qui ont connu des échauffourées. Donc je crois, monsieur le ministre, qu'avant de répondre totalement à votre question, si j'évite la politique politicienne et si je me dis qu'ensemble on doit travailler pour le bien de la République, pour le bien de notre nation, je crois qu'il faut savoir se poser quelque temps après avoir rétabli totalement le droit public. Depuis 2 jours, les choses sont rétablies. J'en remercie les policiers, les gendarmes, les magistrats, les élus, bien sûr tous ceux qui y contribuent. Mais qu'il faut réfléchir parce que je crois que dans une belle revue que j'avais lorsque j'étais adhérent de la même famille politique que vous, il était écrit que dans les victoires d'Alexandre, on y trouve toujours Aristote.
Alors, pas Aristote, mais le président Carucci.
Mais Aristote n'est pas Platon. Donc, je ne vais peut-être pas reprendre là-dessus. Monsieur le ministre, je ne veux pas évoquer tous les sujets de fond. Échec de l'école, pour des raisons multiples. Échec de la politique d'intégration, à laquelle je suis très attaché, pour, là aussi, des raisons multiples, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je le dis très tranquillement avec l'expérience de mon département, bien sûr, mais aussi de tout le pays. Lorsque ça va mal, ou lorsqu'il y a crise, il y a en réalité deux piliers, deux jambes pour l'autorité de l'État et l'établissement de la République. C'est le tricolore des écharpes des élus locaux et le bleu de nos forces de l'ordre, gendarmes, policiers, police nationale, sapeurs-pompiers. Ce que nous vous demandons et ce que nous demandons à la Première ministre, ce n'est pas de faire des miracles. Parce que quand on me dit il faut analyser les raisons de fond, oui, mais enfin, on les cite beaucoup depuis 10, 15 ans, 20 ans. Mais ce que nous demandons à la Première ministre et à tout le gouvernement, c'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique locale. C'est de dire que l'on va restituer aux maires la politique du logement, de l'urbanisme. C'est de dire que l'on a confiance dans nos forces de l'ordre et ne pas avoir un discours alternatif ou du en même temps. Vous devez incarner l'État, l'autorité de l'État, parce que sinon, il n'y aura plus de République.
Merci. La parole est à Madame la Présidente Laurence Rossignol.
Alors vous l'aurez sans doute vous-même remarqué, les échanges sont nettement plus polissés, plus courtois au Sénat qu'ils ne le sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais néanmoins, les messages passent par petits coups de fleuret moucheté. Roger Karoutchi qui nous dit à l'instant, il y a deux piliers. Il faut restituer aux maires la politique locale, la politique de l'urbanisme, donc les constructions dans les villes, et puis bien sûr, rappeler sans embâge une confiance absolue dans les forces de l'ordre. On y reviendra dans un instant, Yann Bastière. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour justement faire réagir un de nos invités. C'est Driss Etazaoui, qui est vice-président de l'association Ville et Banlieue. Vous êtes également adjoint au maire d'Évreux, il me semble. Bonjour Driss, merci de nous rejoindre à nouveau sur notre antenne. Est-ce que ça résonne chez vous, ce que vient de dire Roger Karoutchi, même s'il n'est pas de votre formation politique, je crois que vous êtes modem ou apparenté, responsabiliser, restituer la politique locale, la politique de l'urbanisme aux élus de proximité que sont les maires, c'est là qu'on a pêché quand même en substance.
Je crois que sur des sujets aussi, merci pour votre invitation, sur des sujets aussi importants que celui-là, le côté transpartisan ne doit pas avoir sa place. Le sujet est suffisamment sérieux pour appeler à la concorde et même au sein de la classe politique. Je suis d'accord avec une partie de l'intervention, c'est peut-être le en même temps, et mon côté centriste, mais une partie de l'intervention de Roger Karoutchi et une autre avec laquelle je prends un peu de distance. Aujourd'hui, l'habitat et l'urbanisme sont portés par l'intercommunalité. Ce sont des compétences obligatoires des intercommunalités et les maires siègent au sein des conseils communautaires, siègent au sein des bureaux communautaires et donc participent et contribuent à la décision publique sur le territoire. Que ce soit en matière d'habitat, en lien avec les bailleurs sociaux, naturellement, tant sur les réhabilitations que sur les attributions de logements. Le maire a son contingent, le préfet a la plus grosse partie de son contingent, c'est-à-dire l'État et les bailleurs sociaux également. Ensuite, sur l'urbanisme, je rappelle que ce sont encore les maires qui délivrent les permis de construire. Ce ne sont pas les intercommunalités, ce sont les maires. Donc, sur cette partie-là, je prends un petit peu de distance avec ce que disait...
Donc, ils ont assez de prérogatives aujourd'hui, en somme.
Sur la deuxième partie, et là je suis absolument d'accord avec lui, c'est qu'aujourd'hui, les premiers tranchés sur le territoire, ce sont les maires, ce sont les élus locaux, ce sont celles et ceux qui sont en proximité avec nos concitoyens. Ce sont celles et ceux dont Gérard Larcher dit qu'ils sont à portée de baffe. Nous sommes en proximité, et c'est là tout le paradoxe des élus locaux. C'est que, quelque part, vous êtes le personnel le plus apprécié de nos concitoyens, parce que vous êtes en proximité, mais vous êtes aussi le personnel politique le plus exposé. Vous êtes le plus souvent responsable de tout, et souvent également innocent de rien. C'est là toute la difficulté des élus locaux.
Donc il faut renforcer les sanctions qui les touchent, ces élus locaux. Comment vous inscrivez dans ce débat? Parce que ça a été rappelé à l'occasion de cette séquence terrible qu'on vient de vivre, notamment lors de l'hommage à la famille de Vincent Jeanbrun, qui a beaucoup souffert à L'Haÿ-les-Roses. Ça a été rappelé par les maires qui ont été reçus par Emmanuel Macron hier. Il faut peut-être prévoir un arsenal judiciaire plus dur pour ceux qui s'en prennent à cette autorité-là.
Alors écoutez, si on regarde les chiffres 2021-2022, plus de 32% d'augmentation de violences et de menaces faites aux maires. 2023, une hausse significative également sur le premier semestre. Donc effectivement, l'actualité devient urgente et brûlante. Mais sans oublier que la Première ministre a pris déjà quand même, il faut le rappeler aussi et le souligner parce que c'est important, un certain nombre de mesures qui visent à renforcer les élus locaux et notamment en indiquant les mêmes peines dès lors que vous touchez à un policier, donc dépositaire de l'autorité publique, qu'à un élu. Donc un certain nombre de dispositifs ont été présentés par Madame la Première ministre au mois de mai. Probablement que cela n'est pas suffisant au regard des incidents et des violences que l'on constate aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être aller plus loin.
Merci. Vous restez avec nous parce que, évidemment, j'en ai pas fini avec les questions portant sur la responsabilité parentale. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Peut-être que vous allez vous distinguer d'ailleurs du débat ambiant sur certaines de ces mesures à prendre. Un mot, Yann Bastière, sur ce que vous avez entendu dans la voix de Roger Karoutchi. Il dit « ça suffit, le « en même temps » et « un jour, je défends sans sourciller toutes les forces de l'ordre et puis le lendemain, je me distingue ». C'est-à-dire qu'il faut... Vous aussi, vous considérez que l'exécutif, parfois, est trop ambivalent dans sa défense des forces de l'ordre ?
Il y a eu des mots maladroits. On les a même dénoncés au sein de l'unité SGP Police. Bien entendu, l'inexplicable et l'inexcusable, c'était un petit peu allé vite, même dans les mots du ministre de l'Intérieur ou de la Première ministre, très rapidement, alors qu'une enquête était en cours. Oui, il faut défendre les forces de l'ordre. Dès lors qu'elles sont défendables, dès lors que la déontologie est appliquée, l'autorité publique, ce sont les policiers qui en sont dépositaires. On en parlait à l'instant avec cet élu. Faisons respecter cette autorité publique en protégeant leurs représentants, que sont les policiers ou les gendarmes.
Alors, je vous propose d'écouter, et avant de faire réagir donc, et Judith, que je n'oublie pas, et Driss à nouveau, Guillaume Guérin. Pourquoi Guillaume Guérin? Il est président LR de Limoges Métropole. Et lui dit il faut faire payer les parents parce que, tout simplement, c'est déjà prévu par la loi. En gros, il n'y aurait rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste qu'on a tendance à oublier un petit peu quelles sont leurs responsabilités basiques, premières, fondamentales. Écoutons.
En ce qui concerne la collectivité, nous allons poursuivre tous les auteurs des faits qui ont été identifiés, qu'il s'agisse de majeurs ou de mineurs qui ont commis ces actes-là. Pourquoi les mineurs? Parce qu'en fait, c'est presque la procédure la plus facile. Les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants. C'est l'article 1242, alinéa 4 du Code civil. Et donc, nous aurons un avocat présent à chaque audience pour aller chercher pécuniairement les parents pour rembourser à la collectivité le dommage commis par leur cher chérubin.
Alors, Driss et Tezaoui, faut-il que les parents remboursent pour leurs enfants en toutes circonstances, c'est-à-dire dans le cas d'espèce qui nous intéresse ces derniers jours, ces 6 nuits d'émeute, mais même si c'est amené à se reproduire de manière sporadique, c'est-à-dire que la loi doit être appliquée telle qu'elle?
C'est un sujet important. La question de la responsabilité parentale, elle n'est pas posée seulement aujourd'hui à la suite de ces émeutes. Nous autres élus locaux au sein de nos collectivités respectives, notamment à travers le dispositif de sécurité éducative, nous avions déjà alerté sur cette nouvelle génération dont il était difficile pour un certain nombre de parents d'assurer fidèlement l'éducation. Il faut là aussi faire preuve, je le crois vraiment profondément, d'un certain discernement. Nous avons des familles, il est vrai, des parents qui sont laxistes et qui pensent que leurs enfants peuvent être éduqués au pied d'immeuble à 23h, à minuit ou à 1h du matin. Cela est scandaleux, est inacceptable et effectivement, il faut les renvoyer leurs responsabilités. Mais je peux vous le dire aussi, l'élu local que je suis et l'expérience qui est la mienne, quand je reçois dans mon bureau en audience des parents et en particulier des mamans isolées qui élèvent seuls leurs enfants sur des horaires décalés, qui sont dans l'incapacité d'apporter l'éducation nécessaire et suffisante à leurs enfants et qui ont même peur de leurs enfants, eh bien cela, je pense qu'il faut les soutenir et les accompagner. Donc attention de ne pas culpabiliser l'ensemble des parents. Je pense que là, il devrait y avoir du cas par cas et les situations sont assez différentes. Enfin, sur la question de la suppression des allocations familiales, c'est là la double peine. Vous avez des familles aujourd'hui qui ont un seul enfant. Un seul enfant, vous ne touchez pas d'allocation familiale. Et donc, vous créerez un précédent et une mesure à deux vitesses. Vous avez ensuite des familles que vous allez léser du fait de la suppression des allocations familiales, parce que ces allocations familiales, eh bien, elles concernent l'ensemble de la famille. Et enfin, je vous le disais, il y a des mamans ou des papas isolés, parce qu'il y a aussi des papas isolés, qui sont dans la capacité, pour un certain nombre de raisons, eh bien, d'assurer l'éducation de leurs enfants.
Alors, Judith Vintraube va peut-être vous répondre. Alors, donc, lui dit, attention, il faut faire preuve de discernement. Non, je crois que c'est Rachida Dati qui disait, attention aussi, pourtant Rachida Dati, maire LR du 7e, hein, on ne la présente plus, elle a été ministre de la Justice elle-même. Attention, moi j'étais dans une famille nombreuse, elle a un frère qui a fait, qui a été connu de la justice. Et elle a dit, si on nous avait fait ça, on nous aurait peut-être privé de faire de brillantes études pour les autres qui réussissaient.
Moi, je suis tout à fait pour le discernement. Mais quand on m'explique, juste après avoir dit que des parents laxistes, ça existe et qu'il fallait les punir, que les mères isolées et que les pères isolés n'y pouvaient rien si leurs enfants poussaient comme des herbes folles, pour reprendre une formule... déjà désormais célèbre, donc il ne faut pas les sanctionner. Que veut dire sanctionner sévèrement les parents laxistes? Moi, je suis désolée, je connais plein de mères isolées. Excusez-moi, je ne dis pas « moment », parce que rien ne m'agace plus que ce moment, ce papa, les mères et les pères isolés qui s'occupent parfaitement correctement de leurs enfants, parfois des enfants très nombreux, qui ont des boulots très durs, et je vous assure que ça file droit. Alors, ne faisons pas de généralité, faisons là
où vous êtes d'accord, en fait, hein, sur l'idée du discernement. Vous ne disiez pas autre chose, quand même, à l'instant.
Non, mais excusez-moi, oui. Moi je dis discernement, mais arrêtons de dire qu'être parent isolé.
Et quand on dit discernement, on est d'accord que ça veut dire pas de systématisme.
C'est déjà un alibi, voilà.
En deux secondes, si vous voulez lui répondre, après on passera au journal. Allez-y, je vous en prie.
Merci, vous êtes bien aimable. Ce que je veux dire par là, c'est que naturellement, pour le coup, dans tous mes discours et dans mes propos, je veille et j'essaie de me prémunir, de prémunir les autres sur l'essentialisation. Et l'idée, c'est que quand on a une maman isolée ou une mère isolée ou un père isolé qui est seul dans l'éducation, confronté à l'éducation de ses enfants, il est déjà en situation de fragilité, ce qui ne veut pas dire qu'il est en situation d'échec, loin de là, et fort heureusement.
Merci beaucoup pour votre réponse, Driss et Tazoui. Je ne sais pas si vous resterez avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On vous laisse gérer ça en régie. C'est l'heure, dans un instant, du journal. Je voudrais juste vous faire écouter la réaction de Jordan Bardella, qui parlait de l'excuse de minorité. Lui aussi, il était dans cette même veine. Et alors, il va encore plus loin, le président de l'Assemblée nationale. Lui, il dit carrément, il faut des centres fermés. Vous savez, les fameux centres éducatifs, ça existe déjà, mais il propose d'en voir naître des dizaines supplémentaires.
Je pense qu'il faut tout repenser dans notre société et tout refonder sur la valeur de l'autorité. Il faut rétablir l'autorité à l'école, il faut rétablir l'autorité dans la rue, il faut rétablir l'autorité dans la politique pénale. Nous avons un problème aujourd'hui avec des mineurs. Une grande partie de ceux qui ont cassé sont des mineurs. Je pense qu'il faut des centres éducatifs fermés pour les mineurs.
Il y en a une cinquantaine.
Supprimer la majorité.
Il en faut quoi, 100, 200?
Mais il en faut beaucoup plus. Supprimer l'excuse de minorité, parce que bien souvent cette excuse de minorité est utilisée par les trafiquants de drogue pour exposer des mineurs sachant qu'ils ne risquent rien. Et je pense qu'il faut des centres de redressement fermés, encadrés par des militaires pour les cas les plus récalcitrants. Quand à 14-15 ans, on est capable de tirer au mortier sur des fonctionnaires de police ou qu'on veut tuer du flic, eh bien, il faut derrière des centres de redressement fermés qui puissent être encadrés par l'armée. C'est une proposition qu'avait fait le président Sarkozy à l'époque. Ségolène Royal avait également formulé cette proposition. Mm-hmm. Et je pense que nous pourrions ouvrir le débat en ce sens.
On réagira évidemment à ces propositions. Juste après, le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Et ce matin, évidemment, le Conseil des ministres était largement consacré à ces émeutes avec, en sujet central, la question des sanctions pour les mineurs. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, interrogé sur ce point à la sortie de ce Conseil des ministres.
Que certains jeunes, parfois très mineurs, ne se rendaient même pas compte de la gravité des actes qu'ils commettaient, quand bien même étaient-ils avec un accélérateur de combustible pour pouvoir mettre le feu à des bâtiments. Comment est-il possible qu'un enfant de 13 ans ne sache pas qu'il ne peut pas, la nuit, avec un groupe de camarades de son âge, aller mettre le feu à des bâtiments? À un moment donné, il y a quelque chose qui a décroché. Et donc nous avons besoin de le comprendre pour ensuite analyser la responsabilité des uns et des autres. Et je le redis, quand vous êtes parent d'un enfant mineur, vous n'avez pas à laisser sortir votre enfant dans la rue, encore moins dans un contexte d'émeute urbaine. Et donc il est nécessaire, là où il y a défaillance, qu'il y ait des sanctions, réparations, et ce travail à mener dans la durée, qui est un chantier colossal, pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
sujet des émeutes. Hein. Gérald Darmanin sera auditionné au Sénat justement à partir de 16h30. Le ministre de l'Intérieur sera entendu par la commission des lois. Audition à suivre en direct sur CNews. Coup d'envoi ce soir du festival d'Avignon et après plusieurs jours d'émeutes, la sécurité a été renforcée au niveau des unités de force mobile par des patrouilles pédestres et avait été notamment dans les zones piétonnes. Des contrôles d'identité aléatoires ont également été mis en place dans l'espace public. Écoutez le nouveau directeur du festival d'Avignon, Thiago Rodriguez.
Le Festival d'Avignon travaille avec la préfecture du Vaucluse, avec la mairie d'Avignon, avec le service de soins et sécurité, les forces de l'ordre, pendant toute l'année pour préparer ce mois, cette parenthèse enchantée, en toute sécurité pour le public. Cela veut dire que soit les conditions actuelles, les menaces actuelles, soit les habituelles sont considérées et nous travaillons auprès de ceux qui sont responsables effectivement pour l'ordre dans les rues et la sécurité des festivalières et festivaliers pour que tout se passe au mieux.
Dans le reste de l'actualité, CNews, aux côtés des militaires français, alors que se prépare actuellement le traditionnel défilé du 14 juillet, reportage en immersion au sein des commandos de hussards parachutistes. Antoine Estève a pu assister en exclusivité à un entraînement top secret dans le Massif central. Regardez.
Les commandos préparent leur parachute. C'est un moment de grande concentration. La voilure et les suspentes doivent être vérifiées centimètre par centimètre. Le pliage, c'est la clé d'un saut en parfaite sécurité.
Enfin, attention à la voile, surtout que c'est quand même notre vie qu'on a entre ses mains. Donc, faire attention au matériel. Les commandes s'en mêlent. Du coup, là, bah, faut essayer de les démêler. C'est ce qui prend le plus de temps parfois.
Ces commandos du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et du 8e RPIMA de Castres s'entraînent sur un plateau du Massif central. L'objectif du jour, travailler les sauts de précision.
Ce petit bimoteur va larguer le groupe de commandos à 5000 mètres d'altitude et surtout à 15 km de leur cible. Quand la porte bascule derrière moi, ils ont quelques secondes seulement pour ajuster leur vol et s'orienter vers la base.
En moins de 5 minutes, la grappe de parachute approche. Tous atterrissent sur l'objectif fixé. Il faut maintenant s'entraîner à replier la voile rapidement afin de ne pas rester à découvert. Mission réussie pour le caporal-chef Hugo.
Un saut parfait déjà, c'est quand on se plaise pas, que tout le monde est sur zone. Et là, on travaille vraiment l'infiltration sous voile pour venir poser sur une zone bien précise.
Voilà. Les commandos parachutistes sont des pièces maîtresses des contingents opérationnels français. Ils s'exercent en permanence. Une majorité d'entre eux sautent plus de 40 fois dans l'année.
Et on termine avec du sport. À 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de féminine de football qui se tiendra en Australie et en Nouvelle-Zélande, la gardienne de l'équipe de France, Pauline Perrault, nous parle de son objectif et sans surprise, c'est la gagne.
Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
Forcément une Coupe du Monde, quand on est sportif, ça parle à tout le monde. Ça parle à tous les sportifs. Il y a un côté magique un peu. On a envie de gagner parce que c'est un titre qu'on a envie de voir s'approprier. À chaque fois, on nous met favoris alors que on a rien gagné. On ne peut pas se dire favori. La finale, bien évidemment, j'ai envie d'aller à la finale. Sinon, je ne serai pas devant vous, je serai resté chez moi. Mais il y a d'autres matchs avant d'arriver à la finale. Voilà, va falloir qu'on gagne tous nos autres matchs. Donc avant de penser à la finale, qui est dans un coin de ma tête, bien évidemment, mais il y a d'abord l'Irlande.
Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
Et voilà, c'est la fin de ce journal Nelly. 90 minutes info continue, bien sûr, toujours en compagnie de vos invités.
Merci beaucoup, cher Mickaël. On continue, bien sûr, de s'interroger sur les réponses de la République aux six jours de violence vécue par tous les Français. Et j'aimerais quand même, j'en ai pas fini avec la réaction à la responsabilité parentale, mais aussi à la manière de responsabiliser les mineurs eux-mêmes. Vous avez entendu juste avant le journal, Jordan Bardella évoquer la multiplication des centres éducatifs fermés. Il invoque même la présence de l'armée, enfin il appelle de ses voeux la présence de l'armée, de militaires. Yann Bastière, est-ce que ça va trop loin? Est-ce que le côté martial, on va les mettre au pas et ils vont filer droit, ils vont voir ce qu'ils vont voir, ça va fonctionner? Où il faut avoir un peu de mesure aussi dans la sanction.
Ah, c'est un petit peu leur métier. Ce sont des politiques, à eux d'apporter des réponses, quelles qu'elles soient. Je les laisse mettre de toutes leurs propositions. Que ça marche un petit peu plus droit, oui, il faudrait peut-être un petit peu. Mes collègues dans la rue se sont retrouvés face à des jeunes gens capables de tout. Et la réponse, bien sûr, elle est mesurée. Il a fallu que nous défendions. Donc que des propositions soient faites pour remettre dans le droit chemin ces hordes, comme on voit derrière vous sur les écrans, oui, il y a peut-être des pistes à explorer et pas juste rester, comme je l'entends, sur des amendes, des stages ou des avertissements probatoires. C'est pas possible.
Même question, Driss Etazaoui, vous l'avez sans doute entendu. J'imagine que vous êtes généralement assez peu d'accord avec Jordan Bardella, sans doute que c'est un euphémisme. Mais sur les centres éducatifs fermés, est-ce qu'on peut tenir là un début de réponse, du moins dissuasive?
Je pourrais être d'accord, et vous allez être surprise, sur un sujet avec lui, c'est sur l'idée de faire nation. Je pense qu'au regard de ce qu'on a pu entendre et constater, on a absolument besoin de faire république les uns et les autres et de se poser la question, qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous partageons? Qu'est-ce que la maison commune? Et dans quelle mesure est-ce que nous sommes un et indivisibles? Comment est-ce que réaliser une communauté de destin avec ces territoires-là? On ne peut pas imaginer qu'il y a 6 millions d'habitants sur nos territoires et sur nos quartiers d'un côté, et de l'autre, il y a le territoire national. C'est un sujet sur lequel, vous voyez, vous pouvez être peut-être un peu surprise, mais je trouve que là, on a un vrai sujet de citoyenneté et d'identité. Pour répondre à la question qui est la vôtre, il ne faut pas qu'on réinvente non plus le tiède ou le chaude. On a aujourd'hui des dispositifs qui existent. Quand vous êtes élu local, vous les connaissez. C'est par exemple l'établissement public de la Défense. C'est encore les écoles de la deuxième chance, avec une dimension en plus qui est une dimension assez disciplinaire, avec le drapeau le matin, avec le chant de la Marseillaise. Alors ce sont des dispositifs éducatifs sur la base du volontariat. On n'est pas là dans les peines alternatives à la prison ou à l'incarcération. Mais néanmoins, en termes de prévention et en amont, on a déjà des dispositifs qui permettent d'insérer des gamins dans un parcours éducatif, eh bien, qui va leur permettre non pas de s'insérer, mais de mieux comprendre leur rôle au sein des institutions, au sein de la société.
Merci beaucoup pour cette réponse. Restez avec nous, on aura encore plein de questions aussi à vous transmettre à distance. Je vous propose d'écouter, c'était il y a un instant, on l'a redécoupé au Sénat, Éric Dupond-Moretti qui parle encore une fois de responsabilité parentale, mais qui dit attention de ne pas tomber non plus dans la caricature. C'est Éric Dupond-Moretti après tout.
On ne veut pas poursuivre les parents. C'est une caricature que de dire cela ainsi. J'ai d'ailleurs dit moi-même qu'il n'était pas question, à mon avis, de supprimer des allocations. Je pense en particulier aux femmes qui travaillent, qui sont seules, qui élèvent leur famille, qui le font avec beaucoup de dignité dans la difficulté. Je pense aussi à des parents qui pourraient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de leurs enfants, en particulier assurer l'autorité parentale, et qui ne le font pas. Vous voyez, dans ces nuits courtes que nous avons eues, les uns et les autres, émaillées de mauvaises nouvelles et de vidéos, il y a une vidéo qui m'a plu, c'est celle du père qui va récupérer son gamin par le callback et qui lui dit « rentre à la maison ». Parce qu'à 11 ans, on ne traîne pas dans les rues.
Bon, Judith Vintrop, d'une certaine manière, ça rejoint quand même un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure.
Sauf qu'on retombe dans le « en même temps ». Il faut mettre les parents en face de leurs responsabilités, mais attention, surtout pas les menacer de suspendre leurs allocations familiales, parce que les pauvres, si leurs enfants en sont là, c'est que eux-mêmes vivent des situations économiques.
Donc ils espèrent qu'ils vont s'y plier de bonne grâce par eux-mêmes.
Je comprends pas, là. Quand on s'intéresse à la mesure dont je parlais tout à l'heure d'Éric Ciotti, de suspendre les allocs pour les parents d'enfants absentéistes, les quelques années où elle a existé, puisque François Hollande s'est empressé, une fois élu, de la supprimer, il y a eu déjà un premier effet miraculeux, c'est que les parents sont venus aux convocations. Et les professeurs, et les policiers, enfin tous les interlocuteurs que l'État essaie de mettre en face de ces familles qui dysfonctionnent, vous le disent d'une même voix, cette menace-là est la seule qui fait réapparaître certains parents. Pas tous, évidemment, mais il se trouve que très souvent, dans les cas d'enfants à gros problèmes, les institutions n'arrivent pas à avoir les parents en face d'eux.
Alors, pour avancer un peu et pour bénéficier de votre décryptage, je vous propose de parler politique. La corrélation entre politique et violence, ou plutôt l'échec de la politique lorsqu'il y a violence. Écoutons ce qu'avait nous dire un ancien Premier ministre, en l'occurrence Jean-Pierre Raffarin.
Le point important, c'est de se dire que la politique n'est pas innocente des crises. Hein. La politique n'est pas innocente des violences. Et donc, il faut bien voir, moi, c'est ma conviction depuis longtemps, quand la violence augmente, c'est que la politique recule. Et au fond, on voit bien que le discrédit de la politique affaiblit le message politique. Et je crois que le manque de respect de la politique, des politiciens pour la politique, est les premiers de nos sujets.
Transition toute trouvée pour vous parler de notre sondage Opinion Way pour CNews, qui nous montre quand même, Élodie Huchard, que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Et pour cause, regardez à cette question, approuvez-vous les prises de position des personnalités politiques? En gros, ils auraient mieux fait de se taire pour la plupart, puisque la seule qui tire à peu près son épingle du jeu, et encore, on n'est pas moitié-moitié, c'est Marine Le Pen qui est un peu plus approuvée, dirons-nous, ou plutôt moins désapprouvée que les autres, avec 41% qui approuvent son discours pendant cette séquence. À l'inverse, allez, on va regarder l'autre carton, peut-être qu'il nous montrera Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, 19% seulement approuve son discours. C'est assez conforme à ce qu'on a pu entendre ou lire sur les réseaux sociaux quand même.
Oui, non, mais c'est totalement logique parce que lors d'une crise, forcément, celui ou celle qui ne parle pas est forcément celui qui va éviter toute boulette, éviter de vexer qui que ce soit. Et forcément, malheureusement, le contexte profite à Marine Le Pen puisque de toute façon, elle a alerté sur ces sujets. Et donc, comme elle ne parle pas, mais qu'elle récupère simplement les erreurs des autres, forcément, ça explique ses chiffres. Et la même manière du côté de Jean-Luc Mélenchon, parce que penser qu'effectivement, dans ces quartiers, beaucoup de personnes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une erreur de penser que ces électeurs sont satisfaits de voir les magasins pieds et leurs propres voitures brûlées. Un électeur de Jean-Luc Mélenchon, quand bien même il a voté pour la France insoumise, il veut de la sécurité, il ne veut pas qu'on aille l'attaquer chez lui. Vous avez déjà ce contexte-là. Vous ajoutez à cela le fait que Jean-Luc Mélenchon est soufflé sur les braises pour les personnes qui habitent dans ces quartiers, quand bien même ils ont voté pour lui. Clairement, je pense qu'ils attendaient autre chose. Et le fait que le LFI, notamment, soit allé au bout de son idéologie et tiré jusqu'au maximum, finalement, le côté « on n'appelle pas au calme, on continue à tirer sur la police, etc. », forcément, il en paye les pots cassés, il paye cash. Ces chiffres sont relativement logiques et il n'y a rien d'exceptionnel à voir ceci.
Je crois que c'est Bruno Retailleau qu'on a entendu tout à l'heure qui a fait référence à LFI comme appartenant au camp des émeutiers et au camp de l'excuse sociale. Il est allé aussi loin que ça. Écoutons aussi l'analyse que tire de ce sondage le directeur général adjoint d'Opinion Way lui-même, c'est Frédéric Michaud.
C'est le bloc de gauche, de la NUPES au sens large, qui, lui, est d'une certaine manière discrédité. Alors il faut mettre à part la figure de Fabien Roussel, qui lui est un petit peu mieux apprécié que les autres, peut-être parce qu'il s'est désolidarisé des autres leaders de la NUPES, mais Olivier Faure et surtout Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau ne font l'objet d'approbation que de moins de 20% de la population. C'est extrêmement faible. Et là, ce sont vraiment la radicalité de leurs propos qui leur sont reprochés.
Driss et Azaoui, est-ce qu'à votre sens, des propos inflammatoires ou indécents ont été tenus, y compris donc par des membres de la NUPES, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle se disloque, parce que Olivier Faure, qui est bien gêné aux entournures, et Fabien Roussel, qui est devenu en fait la cible de ses anciens camarades de fortune, sont en train d'en faire les frais aujourd'hui?
Il y a une chose dont je suis convaincu quand je fais les plateaux télé, quand vous avez la gentillesse, l'amabilité de m'inviter, et le retour que j'ai, c'est d'avoir toujours des propos apaisés, d'essayer d'être le plus équilibré possible et le plus posé. Nos concitoyens ont horreur des excès, ont horreur des radicalités. Et dès lors, finalement, qu'on assiste à des commentaires, à des réactions qui versent dans l'obscène, et bien effectivement, on n'est jamais surpris d'avoir les chiffres que vous nous annoncez tout à l'heure. À ceci près, c'est que si Marine Le Pen ne s'est pas exprimée, elle l'a quand même fait à travers la voix de Jordan Bardella, elle l'a fait à travers un certain nombre de ses cadres du mouvement, et donc le Rassemblement National s'est quand même exprimé sur le sujet. Alors, Raffarin a toujours raison de dire que la route est droite, mais que la pente est forte. Sur le sujet aujourd'hui de l'obscénité, moi j'ai encore à l'esprit Monsieur Ciotti hier qui demandait à ce que on plante sur la place publique qu'on affiche sur la place publique celles et ceux finalement qui avaient commis les exactions que l'on connaît. Je trouve que Monsieur Ciotti aurait bien fait finalement de se garder de faire de telles propositions, puisque si effectivement les émeutiers n'ont aucune, mais aucune circonstance atténuante à mes yeux, Monsieur Ciotti devrait très bien savoir aussi que dans sa propre famille politique, il y a un certain nombre de personnalités délinquantes qui ont été condamnées. Et il ne faut pas vouloir pour les autres ce qu'on ne veut pas pour soi.
Merci pour votre commentaire. Parlons de ce schisme aussi au sein de la NUPES, Judith Vintraube, en ce moment. Ça va mal, on imagine mal cette alliance perdurer dans le temps quand même.
Oui, Olivier Faure qui était vraiment, vraiment le plus compréhensif vis-à-vis des désaccords qui pouvaient exister entre la France insoumise et le Parti socialiste dont il est le premier secrétaire, s'est mis à parler de profonds désaccords. C'est là encore révolution. Il s'est réveillé. Il en aura fallu beaucoup. Et pourquoi ? On le voit à la lecture de votre sondage. Parce que les Français désapprouvent très majoritairement l'attitude de la France insoumise en général et de Jean-Luc Mélenchon en particulier.
Et d'ailleurs, on voit bien que Julien Roussel s'en tire plutôt mieux que les autres.
Vous disiez tout à l'heure, et à juste titre, les habitants de ces quartiers qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle veulent aussi de la sécurité, veulent aussi de la tranquillité, refusent eux aussi que les enfants traînent dans la rue, mettent en danger les autres et se mettent en danger. La différence entre le sondage et le vote, c'est qu'en fait, ces quartiers se sont majoritairement abstenus. Donc c'est un tout petit nombre qui a dragué de façon éhontée Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, de façon éhontée et stratégique, puisqu'ils considéraient que c'est là qu'ils allaient trouver les 600-700 000 voix qui manquaient à Jean-Luc Mélenchon pour être élu et enfin rencontrer le destin qui lui était promis. Ça, ils ont fait ça depuis 2017, et la sanction, c'est que la vraie France, c'est pas la petite minorité qui vote, est en désaccord avec ce qu'il dit.
Voilà, en tout cas, on voulait vous partager ce sondage qu'on a obtenu aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, une accalmie semble s'être installée désormais, puisque Emmanuel Macron a parlé hier devant les 240 et quelques maires qu'il a reçus d'un pic, et mais attention, Gauthier Lebray comparait ça à une vague, Covid, il peut toujours y avoir une deuxième vague derrière. C'est l'occasion de s'interroger sur le rôle qu'ont pu jouer dans cette accalmie subite les trafiquants de drogue. Regardez ce reportage qui a été tourné par nos équipes. Reportage de Mathilde Couvillier-Flornoy.
Pour préserver leur trafic, les dealers auraient-ils joué un rôle dans l'accalmie de ces derniers jours ?
On a des échos comme quoi dans certaines cités, il y a des holas qui sont mis pour arrêter ces émeutes et pour que le trafic puisse reprendre de plus belle.
En effet, à cause des émeutes, la présence accrue des policiers dans les cités empêche les trafiquants d'exercer leurs ventes illégales.
Ça pose un problème au niveau des trafiquants, mais aussi au niveau des personnes qui se droguent. Parce que forcément, quand vous avez des émeutes, ça veut dire que tout est brûlé. Vous avez une présence policière avec 45 000 policiers et gendarmes qui est accrue. On sait que les émeutes se passent généralement dans les cités, donc forcément, les clients ne peuvent plus y accéder.
Les trafics de stupéfiants reposent sur un système pyramidal. Les trafiquants ont la main mise sur les dealers et pendant les émeutes, ces règles restent inchangées.
C'est soit un peu en jouant au rôle de grand frère, soit aller jusqu'à la menace en disant maintenant c'est stop, vous arrêtez vos conneries, nous on a besoin de travailler.
L'an dernier, plus de 150 tonnes de produits stupéfiants ont été saisis.
Ce sont eux, il y a des passeurs aujourd'hui qui achètent d'une certaine manière la paix des quartiers, mais aussi pour garder leur business florissant.
Pas aujourd'hui, je vais revenir sur les émeutes dont nous avons beaucoup parlé, 2005. Pour connaître bien ce phénomène, pour l'avoir bien étudié, en 2005, du jour au lendemain, les émeutes se sont arrêtées. Après 3 semaines, parce qu'il y a eu un coup de sifflet, on arrête la récré. C'est la fin de la récréation, le shit est là, on vend. Et du jour au lendemain, et on est certainement sur une période beaucoup plus courte, dans ce même phénomène, peu de quartiers, peu de points de deal, on n'a pas eu beaucoup ça, se sont enflammés. On n'a pas vraiment eu ça, bien sûr. Présence policière, perturbe le trafic, les bénéfices, le business en place, là bien sûr que les trafiquants reprennent la main et on arrête. On reprend le trafic pour faire rentrer les bénéfices très rapidement.
En un mot, Driss Etazoui, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, c'est eux qui ont sifflé la fin de la récré, soyons honnêtes.
Très honnêtement, je vais vous faire la démonstration sur Évreux, quand même, qui est assez particulier, parce qu'on a eu, Évreux a été fortement impacté, la ville où je suis. D'ailleurs, je vous parle de l'hôtel d'agglomération qui est en plein cœur du quartier de la Madeleine, qui lui-même a été assiégé. Et notre ville a été significativement impactée, mais les endroits de deal, il y en a deux en particulier, ont été assez curieusement épargnés par la violence. Donc, est-ce qu'ils sifflent la fin de la partie, ce qui est vrai, ce que nous dit la direction départementale de la sécurité publique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les émeutes, la présence importante des forces de l'ordre perturbe de façon assez significative le trafic de stupéfiants. Et le trafic de stupéfiants est une réalité dans le quartier. Et là aussi, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Et celui qui vous dirait qu'il n'a pas de problème de drogue sur son territoire, eh ben, ne vous dira pas tout à fait la vérité.
Merci beaucoup, Driss Etazoui, d'avoir répondu à notre invitation. Judith, vous allez rester en plateau, mais dans un instant, on laissera évidemment la parole, merci Yann Bastière aussi, à Gérald Darmanin. On se projette, on a quelques secondes pour présenter ce qui va se passer à 16h30. Ça se passe au Sénat. Audition devant quelle commission, Élodie ?
C'est devant la commission des lois. C'est assez récurrent quand il y a des épisodes de crise, comme c'était le cas pour Sainte-Soline, comme c'est le cas avec les émeutes. Eh bien, le Sénat ou l'Assemblée nationale ont tout loisir, évidemment, d'auditionner le ministre. Ça va être l'occasion de revenir avec lui sur la façon dont il l'a vécu, sur les moyens qui ont été mis, évidemment, en place par l'État. Et puis, Gérald Darmanin a eu l'habitude de se plier à ce genre d'exercice. Et d'ailleurs, c'est souvent, ces derniers temps, le Sénat qui l'avait auditionné en premier avant l'Assemblée.
Ce sera à vivre en direct sur notre antenne à compter de 16h30. Vous serez parmi nous pour peut-être débriefer une partie de ses propos. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. À tout de suite. Il est pratiquement 16h30 et je vous propose de retrouver Somaïa Labidi. C'est la Minute Info. Bonjour Somaïa.
Le gouvernement cherche les réponses adéquates face aux jeunes émeutiers. Olivier Véran affirme que là où il y a des défaillances des parents, des sanctions réparations seront mises en œuvre. Le porte-parole du gouvernement a également pointé la responsabilité de ces parents qui ont laissé leurs enfants sortir dans un contexte d'émeute. Lors de son point presse, il a ajouté que le gouvernement a conscience que ce chantier est colossal. Après une semaine d'interruption à cause des émeutes, enfin un retour à la normale côté transport. La circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France dès ce soir. Une annonce faite sur Twitter par le ministre délégué au transport, Clément Beaune. Toutefois, des dérogations localisées pourront s'appliquer en fonction de la situation, précise le ministre. Explosion rue Saint-Jacques, des familles toujours privées de logement, c'est le cas pour une soixantaine d'entre elles. Au total, 9 adresses sont frappées par un arrêté d'interdiction d'accès et de logement, a précisé la mairie d'arrondissement. Pour rappel, il y a 2 semaines, l'explosion suivie d'un incendie dans un bâtiment historique a fait 1 mort et 58 blessés dans ce quartier du 5e arrondissement de Paris.
Merci beaucoup. Qui a dit que le Sénat était à l'heure? Il est 16h30, passé de 30 secondes et on attend toujours l'audition de Gérald Darmanin devant les sénateurs. Petite mise en bouche, on va présenter un peu le contexte de cette prise de parole. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un événement majeur, les ministres de premier plan, et en l'occurrence Gérald Darmanin, c'est souvent soumis à l'exercice, sont amenés à venir faire une sorte de bilan un peu exhaustif. Hein.
Oui, c'est ça, c'est devant la commission des lois qui donc peut auditionner évidemment chacun des ministres sur un certain nombre de crises ou d'actualité. Le but, c'est de lui poser toutes les questions sur comment on peut anticiper, quels sont les moyens de l'État qui ont été mises en place. Alors, en général, c'est plus calme, les auditions au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Un, parce que c'est quand même à majorité de droite. Et donc, en général, ils sont plutôt bienveillants avec Gérald Darmanin. Et ce n'est pas forcément le même caractère. Mais c'est l'occasion quand même pour les ministres d'être passés très clairement sur le grill. Et donc, c'est Gérald Darmanin qui s'y colle. C'est effectivement souvent lui. La dernière fois, c'était autour de Sainte-Soline. Et d'ailleurs, en général, Gérald Darmanin est plutôt lui-même partant pour le faire. Il avait répondu, notamment une fois lors des questions au gouvernement au Sénat, qu'il se tenait à disposition des sénateurs s'il souhaitait être entendu, parce que c'est clairement l'occasion pour un ministre, et Gérald Darmanin n'est pas souvent mis en difficulté face à cet exercice, de s'expliquer, de justifier aussi de son bilan et de son action. Surtout.
Donc, il ne sera pas, si je vous comprends bien, il ne sera pas forcément passé sur le grill, mais enfin, ça peut durer un certain nombre d'heures.
Ah oui, alors par contre, l'inconvénient parfois pour eux, c'est que ça dure très longtemps, aussi longtemps qu'il y a des questions et aussi longtemps que l'agenda du ministre va le permettre.
Traction, oui. Avant l'intervention.
Deux choses qui m'ont frappée dans l'intervention qu'on vient d'entendre aux questions au gouvernement de Gérald Darmanin. Il a insisté d'une part lourdement pour dire qu'il n'y avait que 10% d'étrangers parmi les personnes interpellées pendant les...
Les fameux sous-OQTF, oui.
Pendant les émeutes. 10% non, que 10% d'étrangers parmi les émeutiers interpellés. Donc lui qui avait reconnu le lien entre immigration et délinquance fait semblant de ne pas comprendre qu'on ne parle pas forcément des étrangers mais d'une assimilation totalement ratée, donc des descendants d'étrangers deuxième, troisième génération, premier point. Deuxième point, il a l'air, tout comme Elisabeth Borne, de considérer que là où la politique de la ville a été un peu moins généreuse, les troubles ont été plus violents. La discussion qu'on a eue avant la coupure montre que la carte la plus fidèle, c'est la carte des points de deal. Vous êtes sûr que la carte des points de deal correspond aux villes, ou en tout cas aux quartiers les plus épargnés?
Alors on va y revenir d'ailleurs au point de deal, juste sur la perception de Gérald Darmanin et Yann Bassière dans les commissariats pendant toute cette séquence. Est-ce qu'il est l'homme qui a été à la hauteur de la situation? Est-ce qu'il a apporté son soutien plein et entier et en faisant des promesses aussi sur les moyens d'action futurs aux forces de l'ordre?
Ce n'est pas une question qui s'est réellement posée. L'intensité des émeutes, ça a été un esprit de corps qui s'est réveillé encore un petit peu plus. On s'est serré les coudes. On était dans la rue, alors je dis « on », hein, je me fais juste le porte-parole, c'était pas moi. Mais les collègues ont vraiment serré les dents. Les messages politiques, ça va un moment, mais les promesses, ça va juste également un moment. Là, pour l'instant, c'était pas le message politique, c'était faire face. Faire face par tout moyen, avoir l'armement suffisant, les munitions qui ont manqué. Le danger était réel, on était sur une séquence de très forte intensité. Donc... le ministre, les politiques, on a été un peu mis à mal sur des déclarations du chef de l'État. On est passé à autre chose. On en parlera certainement et nous-mêmes, représentants du personnel, en parlerons prochainement.
Sur les munitions, si vous me donnez l'occasion d'en parler, le débat est porté sur quoi? Il y avait suffisamment de munitions, mais en stock et pas sur le terrain, ou on était vraiment à court de munitions dans certains cas?
Ah non, je pense que les munitions sont là, mais après il faut réapprovisionner les unités sur le terrain. Et quotidiennement, bien sûr qu'il y a eu des soucis, les collègues nous l'ont fait remonter. Ils se sont retrouvés bien avec des émeutiers qui, eux, n'étaient pas à court de munitions, loin de là, ou en mortier d'artifice, ou en armes par destination, pour tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors que nous, de notre côté, on avait cet armement intermédiaire qui a été manquant par moment, parce que Nous sommes des policiers républicains et comme on l'a entendu tout à l'heure au Sénat, pas comme dans des pays qui nous montrent
maintenant. Vous n'êtes pas des va-t-en-guerre, quoi. Vous êtes là pour
faire respecter l'ordre public, comme on l'a entendu en Iran ou dans d'autres pays qui nous donnent des leçons aujourd'hui. Nous aurions compté sur ces phénomènes identiques, des dizaines voire des centaines de morts, comme le disait un sénateur tout à l'heure.
Ce qui m'embrèche quand même l'idée qu'on est là avec un arsenal qui peut être létal,
oui, tout à fait.
Comme
tout
si
tout
on fait, allait tirer dans le tas tout le temps, quoi.
Exactement. En plus, on a eu des tas de témoignages où vraiment, notamment le manque de grenades de désencerclement a expliqué ça, et le manque d'effectifs a expliqué que les incendiaires et les émeutiers aient pu pendant trop longtemps s'en donner à cœur joie avant qu'il y ait des interventions. On a des tas de témoignages de maires, je pense, Montluçon, 80 000 habitants, Montluçon dans l'Allier, la nuit, il y a 5 policiers, oui. 80 000 habitants. Et vous prenez, à part Paris où il y a une concentration, vous prenez plein de villes de banlieue et encore plus de villes de province, mais c'est complètement dépeuplé. La police est à l'os dans... de nombreuses parties du territoire.
Alors, en même temps, il n'y a pas des émeutes tous les jours, donc on ne peut pas non plus en mettre 10 fois plus.
Oui, mais enfin, vu l'ambiance, on serait quand même bien avisé de prévoir, par exemple, des interventions simultanées dans plusieurs endroits. Alors là, ce n'est pas possible. Ou vous défendez le commissariat, dont on a vu qu'il était facilement attaqué, ou vous allez au secours de la population et vous défendez d'autres bâtiments publics menacés.
Alors, Gérald Darmanin, dont on va peut-être apercevoir l'image, je vous propose d'aller tout de suite du côté du Sénat. Je ne sais pas s'il va prendre la parole incessamment, mais enfin bon, allez, on va l'écouter. C'est parti.
Et voilà. Là, je crois qu'il y a de la pellicule. Numérique. Elle est numérique.
C'est la mise en place. On a l'habitude, les conférences de presse, les procureurs de la République, c'est toujours comme ça. On met les journalistes, on installe
les micros. C'est le tour image pour que chacun ait sa petite image. C'est-à-dire qu'au début de chaque conférence comme ça, les journalistes sont amenés aller faire quelques images, puisque ensuite, même si ça sera retransmis sur CNews, on n'a plus évidemment accès à l'intérieur de la salle une fois que la discussion a commencé.
On les fait sortir. C'est
voilà, assez rapide en général. Hein.
De faire sortir les caméras. Je n'ose vous lancer ou vous poser une question parce que je pense que la prise de parole paraît imminente. Mais enfin bon, ils se mettent à l'aise. Voilà, un petit verre d'eau. C'est pas sûr que ce soit pour tout de suite. Allez, on y va.
Cet après-midi, j'indique aux collègues évidemment que l'audition est retransmise sur...
le site internet du Sénat et que par ailleurs, la durée de notre réunion est de l'ordre d'une heure, 1h10. Le ministre devant se rendre à une réunion pour 18h, sauf erreur de ma part. Monsieur le ministre, vous avez accepté de venir cet après-midi devant notre commission pour évoquer la situation que le pays vient de vivre il y a maintenant plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs nuits. Bien sûr que l'origine de l'événement est un événement dramatique, mais en aucun cas cet événement dramatique ne peut justifier les émeutes qui ont eu lieu ensuite et la violence, j'allais dire la déferlante de violence qui a envahi le pays, en tous les cas un grand nombre de villes, de villages, vous l'avez rappelé aux questions d'actualité, de toute nature, y compris sur des critères que nous n'avons pas l'habitude d'avoir, c'est-à-dire des villages paisibles, voire des communes paisibles, et j'en connais quelques-unes, qui ont été la cible d'incendies d'automobiles ou de bâtiments ou de tirs de mortiers. Les images de télévision ont montré la violence avec laquelle cette situation a eu lieu. Vous avez mobilisé beaucoup de personnel de police, bien sûr. Les pompiers ont été mobilisés. Les magistrats, cela a été rappelé, ont été aussi mobilisés pour apporter une réponse pénale rapide. Mais il n'empêche que sur le fond, les questions demeurent. Aujourd'hui, si la situation est apaisée, nous devons sans doute vous en féliciter. Il n'en demeure pas moins qu'on s'interroge tous de savoir pour combien de temps. Et on s'interroge tous pour savoir quel remède demain. Ce que nous partageons comme constat, et c'est là-dessus que nous souhaiterions vous entendre, c'est qu'en réalité, mairie, bibliothèque, espace public, lieu communal ou lieu d'État, voire tribunaux, ont été attaqués, incendiés, y compris la maison d'arrêt de Fresnes. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que c'est la République qui est attaquée. C'est l'autorité qui est attaquée d'une façon générale. Les événements d'hier au tribunal judiciaire de Lyon, à l'occasion de l'audience qui devait juger les personnes qui ont été arrêtées et renvoyées devant le tribunal, le fait que cette audience ait été suspendue parce que des militants d'ultra-gauche étaient présents, ont perturbé l'audience, en insultant d'ailleurs la police, dans un lieu de justice, sont autant d'éléments qui nous interrogent sur la suite des événements, sur les motivations réelles des voyous délinquants ou criminels. Je ne parle même pas des agressions portées à l'égard des élus, bien sûr. Les événements récents concernant le maire de la commune de L'Haÿ-les-Roses. Mais je rappelle quand même, ne l'oublions pas trop vite, le maire de Saint-Brévin. Je rappelle Madame le maire de Plougrescamp. Je rappelle beaucoup d'autres qui, depuis, se sont manifestés pour dire qu'ils étaient les victimes de violences. Dans mon département, un maire a lui-même été aussi attaqué à son domicile. Bref, tout est dit. La situation est dramatique. La réponse policière et la remise en ordre est en cours et vous l'avez menée et nous vous soutenons. La question de fond est de savoir comment demain les choses évolueront et comment nous réagirons aux attaques contre la République. Mais nonobstant cette situation, nous voulons des explications, Monsieur le ministre, sur qui a fait quoi, comment comprendre les choses et essayer de déterminer la réalité des choses. Car nous sommes tous bien convaincus ici que l'ensemble des populations des quartiers appelés de banlieue ou des quartiers difficiles sont des gens qui ont envie de vivre tranquille, qui ont envie d'éduquer leurs enfants, qui se sont inscrits évidemment dans la République, dans notre République plus exactement, et qui avec leurs moyens essayent de évidemment vivre normalement. Donc il est bien question de faire une réflexion de fond, de ne pas faire masse de tout, de s'interroger précisément sur les causes. Mais de bien, c'est vous qui pouvez nous donner cette analyse. Voilà, Monsieur le ministre, je suis déjà beaucoup trop long. Il y aura sans doute des questions de la part des collègues. Mais nous avons donc, je vous le rappelle, mes chers collègues, une heure de temps.
Merci, Monsieur le Président. Comme à chaque fois que, bien sûr, une commission des lois m'invite à expliquer l'action du gouvernement, j'y réponds favorablement. Je m'en excuse si vers 18h, comme je vous l'ai dit, Je vous demande de quitter votre commission car je préside d'autres réunions de sécurité puisque si la situation est calme, elle est à surveiller, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, après ces moments extrêmement difficiles. Le mardi 27 juin 2023, à 8h16, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à Nanterre, des effectifs de la DOPC, c'est-à-dire le service de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, ont voulu procéder au contrôle d'un véhicule avec trois individus à son bord qui circulaient manifestement sur une voie de bus. Le conducteur de la voiture, voiture immatriculée en Pologne, mais non signalée volée, a refusé d'obtempérer, d'après le rapport de la police nationale, aux injonctions des policiers, puis a fini par couper le contact, passage François Arago à Nanterre. Le conducteur a alors manifestement subitement redémarré. Le fonctionnaire de police, comme tout le monde l'a vu sur cette vidéo, a fait usage à une reprise de son arme administrative. Il s'agissait d'un policier expérimenté de 38 ans qui ne connaissait aucune difficulté dans son casier et qui a même été décoré à plusieurs reprises. Il était accompagné par un autre policier expérimenté de 40 ans qui lui aussi ne connaissait pas de difficultés particulières avec son administration. Le véhicule a fini sa course en s'encastrant dans une barrière et un poteau. Le conducteur, qui manifestement a été blessé au thorax, était en arrêt cardio-respiratoire. Les effectifs de police qui sont arrivés ont prodigué un premier massage cardiaque avant l'arrivée des sapeurs-pompiers du SAMU qui ont pris le relais, mais le conducteur blessé a été déclaré décédé à 9h15. Le premier passager arrière, toujours dans le véhicule, a été immédiatement interpellé. Le deuxième passager non identifié au moment des faits a pris la fuite. Il a depuis, chacun l'a vu, été identifié, c'est d'ailleurs exprimé dans les médias. Il a été contrôlé dans la nuit du samedi 1er juillet en violation d'un contrôle judiciaire sur ses horaires de sortie et placé en rétention judiciaire. Il a été remis à l'issue de la mesure assez civilement responsable puisque il était, comme le conducteur, non majeur au moment des faits. Le procureur de la République a saisi l'inspection générale de la police nationale et nous avons fait pareil en administratif au même moment. Et ceux-là ont mené l'enquête. Vous avez vu qu'ils ont mis en garde à vue les policiers. Le policier qui a utilisé son tir administratif, au bout de 48 heures, le policier a été présenté devant des magistrats instructeurs. Une information judiciaire a été ouverte. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il ne m'appartient pas plus en amont de discuter évidemment de l'enquête judiciaire ni des suites judiciaires. Ce sera évidemment au parquet ou à la chancellerie de communiquer. À la suite, évidemment, de cet événement absolument dramatique pour lequel, je crois, très rapidement, le gouvernement a fait transparence et a utilisé, me semble-t-il, les mots qu'il convenait, tout en rappelant que ce policier a le droit, comme toute personne, à la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas condamné définitivement. Il y a eu une nuit, celle qui a suivi immédiatement, qui aurait pu être une nuit de désordre public. Et je voudrais ici dire que le ministère de l'Intérieur s'est préparé immédiatement au fait qu'il pouvait y avoir des manifestations. Et donc il a mis en place un dispositif d'ordre public. Et cette manifestation ou ces manifestations n'ont pas eu lieu, puisque ce que nous avons constaté dès la première nuit, ce sont des violences urbaines. À Nanterre, c'est tout à fait vrai, mais dans d'autres villes de France, par effet de mimétisme, très certainement, on y reviendra. Et donc la posture du ministère de l'Intérieur, qui était évidemment d'éviter un autre drame, passait à ma demande d'une position d'ordre public à une position de lutte contre les violences urbaines, ce qui explique à la fois la mobilisation de moyens extrêmement différents, mais aussi la stratégie mise en place par les préfets sous mon autorité, et singulièrement par le préfet de police, même s'il n'a pas été le seul au rendez-vous, bien sûr, de cette action. Je voudrais en remercier ici les préfets, les équipes de la Direction générale de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, de la Préfecture de police, de la DGSI qui a été également mobilisée, et l'ensemble, bien sûr, des forces de l'ordre, y compris des sapeurs-pompiers et des polices municipales qui ont contribué à ce travail. Nous avons connu pendant ces moments très difficiles, donc je peux compter ce moment difficile entre le 27 juin et aujourd'hui, Monsieur le Président, même si les deux dernières nuits ont été extrêmement calmes. 23 878 feux de voies publiques, et singulièrement des poubelles. 12 031 véhicules incendiés. 2 508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273 bâtiments qui appartiennent aux forces de l'ordre, police nationale, gendarmerie ou police municipale. D'ailleurs, les polices municipales ont payé un lourd tribut à ces attaques inacceptables. 105 mairies incendiées ou dégradées. 168 écoles ont fait l'objet d'attaques, quelles qu'elles soient, Et sur la même période, 17 atteintes aux élus ont été recensées par le ministère de l'Intérieur, dont bien sûr le cas de M. le maire de La Haye-les-Roses. Évidemment, devant une violence extrêmement forte et devant une posture d'interpellation exigée par mes soins, les services de la police nationale et de la gendarmerie ont procédé à 3505 interpellations, dont 1373 dans la seule zone de la préfecture de police, c'est-à-dire Paris et sa petite couronne, dû notamment au fait que nous avons demandé, comme chacun l'a vu, dès le deuxième jour, que les brigades d'intervention qui d'habitude sont utilisées en judiciaire, je parle du RAID, du GIGN, de la BRI ou des pelotons de la garde républicaine, ont été mobilisés dans toutes les villes de France et ont procédé à ces très nombreuses interpellations, je crois dans des conditions conformes à la loi et à la déontologie et au principe de proportionnalité que je leur ai demandé, même s'il peut y avoir des moments dramatiques et évidemment on entend ici ou là le fait que cela puisse exister. Il n'y a à ma connaissance que 10 saisies de l'IGPN ou de l'IGGN dans des cas particuliers pour l'instant pour lesquels je n'ai que très peu d'informations et pour lesquels d'ailleurs des enquêtes judiciaires sont ouvertes. Je voulais donc remercier les policiers et les gendarmes puisqu'ils ont agi dans des conditions difficiles. On les a rappelés de leur congé, on a annulé des formations, on a rappelé des missions comme les CRS des plages pour que bien évidemment on puisse répondre à cette problématique. On a organisé des continuités de services qui étaient au-delà des horaires. Je saurai, Monsieur le Président, en tant que chef d'administration du ministère de l'Intérieur, les remercier symboliquement et plus que cela, évidemment, pour cette mobilisation, parce que c'est leur mobilisation et leur professionnalisme qui a permis de rassurer les élus, limiter les attaques, même si elles ont été extrêmement nombreuses, et, je veux le dire ici, augmenter un nombre d'interpellations jamais retenues, qui a permis une réponse pénale qui, je crois, est forte, même si je n'ai pas tous les chiffres et qu'on sait tous que la réponse pénale met du temps après les interpellations et les gardes à vue. Continue un travail de police judiciaire. Je reviendrai, monsieur le président de la commission des lois, parce que nous avons évidemment à travailler en judiciaire pour pouvoir interpeller dans la journée tous ceux qui commettaient des méfaits la nuit. Et ça a contribué très largement, me semble-t-il, au calme. J'aurai quelques exemples à vous donner. Et en confiant à la police judiciaire, je voudrais dire à monsieur Durin, peut-être, avec facétie, s'il me le permet, en préfigurant la réforme de la police nationale, nous avons su, je crois, retrouver énormément de monde et notamment énormément interpeller de personnes dans la journée, calmant ainsi une partie des ardeurs des émeutiers et des délinquants. Et nous avons su, me semble-t-il, protéger quelques symboles extrêmement forts et nous avons vu transformer finalement ce mouvement qui était des mouvements d'attaque. Évidemment, c'est un peu caricatural parce qu'il faudrait regarder territoire par territoire des attaques symboles de la République, écoles, commissariats, mairies, brigades de gendarmerie, postes de police municipale, centres sociaux, en pillage de commerçants, qui était la deuxième phase, si j'ose dire, série de nuits extrêmement difficiles. En quelques mots, Monsieur le Président, 45 000 forces de l'ordre ont été mobilisées. L'intégralité, je l'ai dit, des forces du ministère de l'Intérieur, un très gros travail des services de renseignement, une très bonne collaboration, non seulement avec le ministère de la Justice, mais avec les procureurs de la République, qui ont su, je crois, être au rendez-vous de la travail très important fait par la police et par la gendarmerie, mais une sociologie qui interroge. La sociologie des délinquants, des émeutiers interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui ont été, soit par les travaux d'enquête technologique que chacun comprendra ici, récupérer des personnes un petit peu plus âgées. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la première personne qui a été interpellée a 11 ans et la dernière a 59 ans. Et que s'il y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur, vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart d'entre eux. Comme je l'ai dit aux questions au gouvernement, Monsieur le Président, nous pouvons constater par ailleurs qu'à notre connaissance, seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. C'est évidemment difficile d'aller plus au-delà de la sociologie de ces personnes, puisque après les interpellations, Ces personnes sont rentrées dans un fichier qui s'appelle Casiopée, qui est un fichier judiciaire, et il appartient sans doute à Monsieur le garde des Sceaux de donner des informations dans quelques jours, parce que je crois que c'est un peu trop tôt pour qu'il puisse le faire, sur la composition exacte des personnes, pour que nous comprenions leur origine géographique et les motivations éventuelles qui les ont amenées à commettre ces méfaits. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la posture du ministère de l'Intérieur, c'est évidemment d'être extrêmement attentif. Ça repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est une présence des forces de l'ordre extrêmement forte sur le territoire national. Je constate avec vous que ni la Corse, ni les Outre-mer, à quelques exceptions près, un peu la Guyane, un peu la Réunion, mais très en deçà de ce qu'a fait la métropole. Donc il s'agit d'un sujet exclusivement métropolitain ou quasi exclusivement métropolitain, rester très éveillé donc pour la présence de voies publiques, et notamment la nuit. Je constate également, deuxième point, que le travail que nous devons mener aujourd'hui, c'est un travail de police judiciaire. Il y a énormément d'interpellations au moment où je vous parle de personnes qui sont confondues par la police technique et scientifique. Nous avons particulièrement mobilisé par les services, bien sûr, de la police judiciaire qui permettent ces interpellations. C'est pour ça que les chiffres d'interpellations augmentent. Ils ne correspondent pas à des nuits d'émeutes supplémentaires. Ils correspondent au travail de la PJ qui permet, après coup, d'interpeller les personnes. Je pense, par exemple, à la mairie de Mont-Saint-Barœul où je me suis rendu. 9 personnes ont été arrêtées. Et vous aurez constaté qu'il s'agit de manière extrêmement majoritaire de mineurs. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes qu'on se posera sociologiquement et politiquement plus tard. Mais on a vu qu'en 48 heures, les services de la police étaient capables, alors qu'un feu avait ravagé une mairie, d'interpeller les personnes. Donc je voulais remercier vraiment la grande mobilisation des policiers qui font de la police judiciaire. Et puis, troisièmement, il s'agit maintenant de lutter contre tout ce qui contribue. Alors ce n'est pas une réponse structurelle, Monsieur le Président, mais enfin, c'est une réponse conjoncturelle, à armer les émeutiers. On a eu peu de tirs contre les policiers et les gendarmes. Je veux cependant constater qu'à Nîmes, un policier a vu une balle de 9 mm dans son gilet pare-balles qui aurait pu lui coûter sa vie s'il n'avait pas été bien équipé. À Lyon, en tout cas,